I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 31 mars 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis le début de la guerre, il y a plus d'un mois, vous entendez les récits des Ukrainiens sur place, les analyses des experts et les inquiétudes des politiques. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il y a une voix qu'on entend beaucoup moins, c'est celle des Russes. À La Loupe, on a cherché, envoyé beaucoup de messages, essuyé presque autant de refus. Et finalement, on a trouvé deux Russes qui ont accepté de se confier, en longueur, deux Russes au profil assez différent.
Je m'appelle Anastasia, j'habite Omsk, c'est en Sibérie. Je suis interprète, traductrice et professeure de langue, de français et d'anglais. Je suis née en Ukraine, j'ai ma famille maternelle qui vit là-bas.
Je m'appelle Sergueï, je vis en Russie à 100 km de Moscou et j'ai 29 ans.
Ils nous ont raconté leur quotidien entre les sanctions et l'accès à l'information, la haine aussi qu'ils ressentent à leur égard et la peur de l'avenir. Anastasia et Sergueï dressent le portrait d'une Russie divisée aux opinions et aux situations très diverses. Et pour mettre en perspective ces témoignages, nous avons fait appel à Anne Le Wérou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, enseignante à l'Université Paris-Nanterre et vous êtes spécialiste de la Russie. On va le voir avec vous et avec Sergueï et Anastasia. Face à la guerre, il n'y a pas une, mais plusieurs Russies. Vous venez donc de rencontrer Anastasia et Sergueï. Pendant tout cet épisode, ils vont nous raconter leur vie en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais avant de récolter ces témoignages, l'étape la plus compliquée, ça a été de convaincre. Nous avons dû expliquer notre démarche, rassurer ceux qui nous répondaient, montrer qu'il est important de les entendre, quel que soit leur point de vue. Et souvent, la conclusion était la même. J'ai peur, c'est trop risqué, parce que la répression grandit en Russie.
Jusqu'à 15 ans de prison, voilà à quoi s'expose désormais tout citoyen russe qui donnerait des informations mensongères sur l'armée.
Et si finalement Sergueï et Anastasia, dont vous n'entendrez que les prénoms, ont accepté de nous parler, c'est parce qu'ils ont chacun un message à faire passer.
It's not Russian people that are fighting against Ukraine.
Ce ne sont pas les Russes qui se battent contre l'Ukraine. C'est Poutine.
It's Putin.
Il ne faut pas confondre.
People are suffering here too.
Les gens souffrent ici aussi.
Je sens que beaucoup de nervosité chez les gens. Pour nous, on a l'impression d'être l'ennemi numéro un de l'OTAN. Et surtout la Poutine, on croit que c'est lui le plus grand problème. Et je pense que le problème n'est pas là.
Anne Le Wérou, on entend déjà que la position de nos deux interlocuteurs n'est pas tout à fait la même.
Alors oui, bien sûr, il faut même commencer par parler de plusieurs Russies et commencer par, je dirais, déconstruire l'idée qu'on entend parfois, hein, qu'il y aurait un peuple russe, une population russe, une société russe, une opinion publique russe. Les divisions régionales en particulier, les divisions sociales, les divisions générationnelles sont extrêmement importantes pour appréhender la réalité.
Alors on vous écoute, quelles sont ces différentes Russies ?
Dans les années 2000, on a effectivement une différenciation sociale qui s'accentue, hein, très fortement entre, je dirais, le haut et le bas de la société, avec effectivement la formation d'une classe moyenne. Alors dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, bien sûr, comme Moscou, Saint-Pétersbourg, quelques autres villes comme peut-être Ekaterinbourg, voilà, ou d'autres, et également très présente. Alors c'est peut-être un phénomène plus spécifique à la Russie, on va dire, dans des petites villes ou dans des petites régions, notamment là où il y a les industries extractives, donc là où il y a les industries, bien sûr, qui rapportent de l'argent à la Russie, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, et où là on va avoir des poches de richesse, je dirais, et également une élévation du niveau de formation, du niveau d'éducation, de la possibilité de voyager à l'étranger, de la possibilité d'envoyer ses enfants faire des études à l'étranger.
Ça, c'est pour les grandes métropoles et on a compris les régions plus riches, et ailleurs.
Ensuite, dans les provinces russes, il y a aussi ce que les économistes ou les géographes russes appellent des régions dépressives, des régions dans lesquelles il y a une dépopulation, dans laquelle la population décroît. Et c'est quand même globalement le cas de toutes les régions de la Sibérie et de l'Extrême-Orient. Ça peut être soit effectivement des grands centres urbains dans lesquels les industries soviétiques ont été particulièrement touchés par les années 90 et ne se sont pas forcément rétablis ou ne se sont que partiellement rétablis dans les années 2000. On pourrait aussi parler bien sûr des campagnes. Je pense particulièrement aux campagnes parce que c'est aussi souvent dans ces milieux ruraux dans lesquels les jeunes ont moins de possibilités bien sûr de faire des études, notamment des études supérieures, font souvent des études secondaires, voire secondaires courtes et qui sont souvent les premiers à être conscrits et à être envoyés à l'armée, voire à conclure des contrats d'engagement avec l'armée, parce que c'est la perspective, pense-t-il en tout cas, d'avoir un salaire, de devenir indépendant de ses parents, etc., etc.
On garde bien ça en tête parce que ça va nous être utile pendant tout le récit d'Anastasia et de Sergueï. Et d'ailleurs, pour leur parler, nous avons rencontré un autre obstacle. Difficile de trouver le bon moyen de discuter. Il faut jongler entre les réseaux sociaux, les différents services de messagerie. Certains sites internet en Russie sont bloqués. Facebook et Instagram ont été interdits pour extrémisme. Une manière de plus de contrôler l'information qui circule dans le pays.
I can tell that the propaganda in Russia is still very strong.
Ce que je peux vous dire, c'est que la propagande en Russie est toujours forte.
A lot of people believe in it.
Et beaucoup de gens continuent d'y croire.
The sources that we have an access to are limited.
On a accès à peu de sources d'informations. Les médias indépendants ont quitté la Russie. Les gens n'ont donc que la télévision pour s'informer sur ces événements, sur cette opération spéciale. Ce qu'on peut voir à la télé en général, c'est que le but de cette opération est de défendre notre pays. Tout le monde est un ennemi, donc on doit attaquer avant d'être attaqué. Et on doit protéger le Donetsk et le Lugansk parce qu'ils sont attaqués par leur propre pays et nous demandent de l'aide. C'est la seule version qu'on peut voir.
Never saw a message about our people dying there, about our soldiers dying there, or about any civil.
On ne voit jamais d'informations à propos des morts là-bas, que ce soit nos soldats ou des civils, des Ukrainiens attaqués par notre armée.
Attacked by our forces, and if we have a picture of a building destroyed.
Quand on nous montre un bâtiment détruit ou bombardé, on nous explique qu'il fallait l'attaquer parce qu'il abritait des nationalistes.
Some nationalists in it.
Ou alors que ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui l'ont attaqué et qui font croire que ce sont les Russes.
Tout ce qui concerne les médias, ça ne me concerne pas beaucoup parce que j'ai tout sur Internet. J'ai accès vers les chaînes françaises, ukrainiennes. Au départ, toutes les deux premières semaines, je comparais souvent les infos chez nous, évidemment. On dit que la Russie n'a pas tout à fait tort. Et en Ukraine, on dit que c'est la Russie qui a tort, si on peut le dire comme ça. À l'étranger, la France, tous les pays étrangers, nous, on est des agresseurs. Mais j'ai tendance à comparer pour trouver le bon milieu, pour faire une image en 3D. Parce que je sais que si on compare, par exemple, la première chaîne russe avec le BFM TV en France, c'est la même chose. On a des mensonges, beaucoup. Il y a des blogs de l'opposition qu'on peut voir. C'est surtout sur YouTube. On peut écouter tous les avis. Et je trouve qu'en partie, chacun a raison. Le point commun, c'est que tout le monde veut la paix.
On l'entend, contrairement à une part importante de la population, qui ne peut s'informer que grâce à la télévision russe, Anastasia et Sergueï, eux, ont accès aux médias étrangers, aux vidéos sur les réseaux sociaux. Pour ça, ils utilisent des VPN, ces logiciels qui permettent de contourner la censure de l'Internet russe. Pourtant, ils n'interprètent pas ce qu'ils voient de la même façon. Anne Le Wérou, est-ce que c'est surprenant ?
Ah, alors, c'est très intéressant parce que ça veut... En fait, pour moi, c'est complètement à front renversé, ces deux affirmations. Mais c'est toute la question qui est souvent posée ces dernières semaines. Est-ce que les Russes ne peuvent pas voir ce qui se passe ou est-ce qu'ils ne veulent pas voir ce qui se passe ? même le ne peuvent pas voir, en fait, il a plusieurs sens, je dirais. Il y a le ne peuvent pas voir matériellement, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas accès à l'information, ou est-ce que c'est on ne peut pas voir cognitivement parce que ce serait trop, en quelque sorte, douloureux, trop abyssal aussi pour les consciences individuelles, je dirais, de reconnaître finalement aussi qu'on a donné sa voix, donné son adhésion, même passive, je dirais, à un pays qui peut finir par faire la guerre à son voisin dans lequel on a souvent de la famille ou des liens de proximité.
On le comprend, il y a donc une grande part de subjectivité dans l'interprétation des informations. On pourrait se dire que les sanctions économiques, c'est beaucoup plus concret. Et pourtant, Anastasia et Sergueï ne les vivent pas non plus de la même façon.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Si vous écoutez régulièrement La Loupe, vous savez qu'on a consacré un épisode aux sanctions économiques contre la Russie. C'était la première réponse des Occidentaux à la guerre en Ukraine. Et elles ne sont pas ressenties de la même manière chez Sergueï, qui vit près de Moscou, et chez Anastasia, qui habite elle en Sibérie, près de 3000 km plus à l'est.
Côté salaire, je n'ai pas encore remarqué si ça a beaucoup de changements. Mais je pense que tout le monde dit, j'ai lu des pronostics, qu'on le sentira plus en été, parce qu'il faut prendre un peu de temps pour que ça nous frappe. En général, ce qui se passe, c'est des problèmes avec le sucre et le papier toilette. Tout ce qui est le produit alimentaire, les prix ont peut-être pas doublé, mais presque doublé, parce que les gens sont un peu en panique. Au départ, c'est comme pendant les premiers mois de Covid. Je pense que les gens, ils vont se calmer petit à petit.
For example, we have a lot of McDonald's restaurants that are closed. Uniqlo, H&M.
Par exemple, beaucoup de magasins sont fermés. McDonald's, Uniqlo, H&M, et la liste continue de s'allonger. Et puis, il y a aussi beaucoup de produits électroniques et de logiciels qui ne sont plus disponibles.
A lot of software. As an architect, we use a lot of foreign software.
Je suis architecte et je travaille tous les jours avec des logiciels étrangers. Et on ne peut plus les utiliser parce qu'on n'a plus accès aux licences.
They are all cancelled. Most of our work is actually stuck.
Donc je ne peux plus avancer sur mes projets. Je suis bloqué.
A lot of people losing their work just because there are a lot of companies leaving in the country.
Avec le départ des entreprises étrangères, beaucoup de gens ont déjà perdu leur travail. Dans ma famille, ce n'est pas le cas parce qu'ils sont employés par le gouvernement.
They work mostly for government. But yes, I have some friends in my sphere in architecture that already lost their jobs.
Mais certains de mes amis dans mon domaine de l'architecture ont déjà perdu leur travail parce qu'il y a de moins en moins de projets.
Don't have anything to work on.
Anne Le Wérou, les effets de ces sanctions, même si on l'entend, ils sont assez disparates. Est-ce qu'ils peuvent entraîner une mobilisation de la population ?
L'État russe a encore des réserves, je dirais des réserves d'argent, des réserves en or notamment, qu'il peut aussi utiliser encore pour, je dirais, abonder en quelque sorte, compenser en partie la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation, les personnes qui vont perdre leur travail très probablement. Et donc on peut imaginer que comme au moment de la crise de 2008-2009, comme au moment des sanctions de 2014, pendant un court terme, l'État russe va être en capacité de compenser partiellement l'effet des sanctions. Mais du coup, si les sanctions se font, je dirais, plus sentir, il peut y avoir des formes de protestation qui, effectivement, du coup, pourraient déboucher et se manifester dans un certain nombre de villes les plus reculées et peut-être les plus, justement, les moins riches. Ça, c'est une possibilité. Encore faudrait-il qu'elles soient entendues, qu'elles soient coordonnées, qu'elles ne soient pas férocement réprimées. Mais il y a un débat en ce moment sur est-ce qu'il faut partir ou est-ce qu'il ne faut pas partir. Et il y a une partie des gens qui commencent à dire non, nous, on reste parce qu'on ne peut pas... Voilà, la Russie ne peut pas être complètement, d'un seul coup, privée de l'ensemble de ces couches qui pourraient organiser des formes de résistance.
Comment s'informer, comment vivre avec les sanctions ? Sergueï et Anastasia, vous l'avez compris, ne sont pas d'accord sur tout. Mais il y a une inquiétude qu'ils partagent, quel peut être l'avenir de leur pays ? Vladimir Poutine est le personnage central de cette guerre qu'il a déclenchée en Ukraine. Là aussi, on lui a consacré plusieurs épisodes de La Loupe. Ça fait près de 23 ans qu'il préside aux destinées des Russes comme Anastasia. Je lui ai demandé si le conflit avait modifié la manière dont est perçu Vladimir Poutine dans son entourage.
Déjà pendant la Covid, il a été très populaire parce que nous, on n'a presque pas eu de confinement, juste le premier, et ce n'est pas comme en Europe. La vaccination, il y en a qui auront pu faire leur choix quand même. Je pense que c'est en partie pour ça qu'il est resté populaire. Et là, maintenant, c'est tout comme en Ukraine. Les gens, ils s'unissent plus face au danger. Pour l'Ukraine, c'est face au danger lié à la guerre. Et pour nous, c'est face au danger lié aux sanctions économiques. Et je lis un tout petit peu, on m'a envoyé un peu les articles du Monde, de Figaro, où au départ, on nommait Poutine le dirigeant autoritaire, totalitaire, et là maintenant c'est quasiment le dictateur. Donc, mais nous, on ne sent pas vraiment qu'on vit sous la dictature. Depuis les années 90, depuis le crash de l'URSS, on ne veut pas que cette situation se répète. Et quand je lis certains articles américains ou étrangers qu'il faut se révolter, qu'il faut quasiment faire la guerre civile, mais nous, on ne veut pas ça. On a l'exemple de l'Ukraine devant nous, de l'ex-URSS, de la Biélorussie à côté. On n'a pas envie de répéter, refaire la même chose qu'on a eue. Et c'est vrai que ça unit un peu plus, parce que c'est peut-être pour ça qu'on supporte Poutine, peut-être pas dans la guerre, mais pour nous, c'est la guerre des sanctions aussi.
On sent bien, Anne Le Houerou, quand on entend Anastasia, que les liens entre les Russes et Vladimir Poutine sont loin d'être rompus.
Oui, alors il y a eu ce fameux, on a appelé parfois pacte de stabilité ou pacte de sécurité dans toutes les années 2000, assez clairement, entre finalement une société qui avait été déboussolée pendant les années 90 et un président, une nouvelle équipe au pouvoir qui promettait justement à la fois l'ordre, la stabilité économique et voire, pour un certain nombre d'entre eux, pas pour tous bien sûr, la prospérité. Hein, et ça, il faut bien sûr pas l'oublier dans cette donne de la Russie d'aujourd'hui. Mais en tout cas, pour l'instant, je dirais que ce contrat social de plus en plus contraint, il emporte probablement encore des formes d'adhésion et d'adhésion assez fortes, mais beaucoup plus sur le thème de ce qu'on pourrait appeler le sentiment de forteresse assiégée, le sentiment que la Russie agit en défense, justement, de manière défensive et non pas offensive, que l'agresseur est l'Occident, que l'agresseur est en tout cas celui qui menace, c'est l'Ukraine, son président et son régime soi-disant nazi. Et donc ces arguments-là, en fait, qui sont des arguments d'autorité, qui sont des arguments de plus en plus assénés, je dirais, et presque comme une sorte d'invocation permanente, ils ont encore effectivement une certaine capacité à passer.
Un contrat social entre Poutine et les Russes qui va donc évoluer. Mais est-ce qu'il pourrait se heurter à une forme d'opposition, alors même que les manifestations sont totalement réprimées ?
Alors, est-ce qu'il y a des formes de résistance organisées ? Non. Il y a quand même un certain nombre de gens pour qui, je dirais, ça a été une forme de goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait justement que cette adhésion résignée, cette résignation à l'absence d'alternative et le fait de, effectivement, s'occuper de sa vie le plus tranquillement possible en étant en dehors de la politique, ce qui est une sorte de phrase qu'on entend très souvent, effectivement, en Russie. Là, ces gens-là se sont dit non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que j'ai mon grand-père dans une ville d'Ukraine. Non, c'est pas possible parce que mon pays peut pas rentrer dans un pays voisin pour aller faire une guerre à ce point-là. Et là, évidemment, c'est des gens qui sont sortis dans la rue, beaucoup de jeunes, mais pas seulement. Et donc, ces gens-là, essayent d'accrocher un petit signe sur leur balcon, sortent avec une pancarte dans la rue et se font arrêter, même s'il n'y a rien d'écrit sur la pancarte.
Résister ou partir ? C'est la question qui occupe l'esprit de Sergueï. Et c'est ce désarroi qu'il nous a confié à la fin de notre entretien.
J'aimerais pouvoir rester dans mon pays parce que je suis un citoyen légitime. J'ai déjà une carrière ici. Je voudrais la poursuivre. C'était mon projet avant ces événements. Mais maintenant, je ne sais pas ce que le futur me réserve. Je ne vois pas vraiment d'avenir. C'est difficile de se projeter parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller.
Un avenir incertain dans une Russie, vous l'avez entendu, multiple et divisée. Merci à Sergueï et à Anastasia d'avoir accepté de nous raconter leur quotidien. Merci aussi à Anne Le Houerou pour ses éclairages. Pour continuer de lire les analyses de la rédaction de l'Express sur la guerre en Ukraine, je vous encourage à vous abonner. Profitez-en, le premier mois est offert en ce moment. La Loupe poursuit aussi sa couverture du conflit. Alors pour ne rater aucun épisode, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Castbox ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires. Et l'adresse pour nous écrire n'a pas changé, laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué grâce à la ténacité de Charlotte Baris et avec Frédéric Blint et Jules Benveniste. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.